France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 2002, 20 ans après sa disparition, France Culture rediffusait la quasi-totalité des causeries radiophoniques par lesquelles Pierre Mendès France s'adressa régulièrement aux Français durant les 7 mois et 17 jours où il occupa la présidence du Conseil. Présenté par le conseiller d'État François Stas, qui dirigea la publication des œuvres complètes de Pierre Mendès France, ces causeries étaient réunies dans une série de 5 numéros. Nous en écoutons maintenant le quatrième, qui rassemblait les interventions de Pierre Mendès France entre la fin du mois d'octobre et le début du mois de décembre 1954. Mémorable, Pierre Mendès France, quatrième des 5 parties, diffusé la première fois le 17 octobre 2002 sur France Culture.
Bonjour, nous sommes en octobre 1954. Pierre Mendès France est le chef du gouvernement depuis 4 mois et a déjà accompli une tâche considérable en mettant fin à la guerre d'Indochine, en engageant la Tunisie sur la voie de l'autonomie et en trouvant une alternative au projet de communauté européenne de défense dont le Parlement français n'a pas voulu. Cette alternative, nous avons commencé d'en parler lors de l'émission d'hier. Aujourd'hui, nous allons écouter Mendès France le 24 octobre 1954. Il vient d'achever la négociation des accords dits de Londres et de Paris qui permettent le réarmement de l'Allemagne, à l'exception de l'arme nucléaire à laquelle celle-ci renonce solennellement, et qui prévoit une forte présence militaire britannique sur le sol européen. Mendès France annonce aussi qu'un accord a été trouvé sur le devenir de la Sarre. On a oublié aujourd'hui le problème posé alors par cette région allemande. Au terme des traités qui mettent fin à la Seconde Guerre mondiale, il est prévu que la Sarre et ses grandes richesses minières passent sous administration française. C'est une sorte de tribut payé par le pays vaincu à ses vainqueurs. On se doute bien qu'une telle situation ne peut pas s'éterniser. En 1954, près de 10 ans après la fin de la guerre, l'Allemagne, dirigée par le chancelier Adenauer, est redevenue une nation parfaitement démocratique. Le statut de la Sarre, en quelque sorte sous protectorat français, fait figure de scorie absurde de la guerre. Il faut en sortir. L'accord négocié par Mendès France prévoit que la population de la Sarre se prononcera prochainement sur son rattachement complet à l'Allemagne, ce dont personne ne doute. Ce dossier épineux étant réglé en douceur, les relations franco-allemandes peuvent enfin prospérer sur le terrain économique. À la fin de son propos, Pierre Mendès France évoque les perspectives d'une coopération économique beaucoup plus forte entre les deux pays. 3 ans avant la création du marché commun, de tels propos résonnent aujourd'hui de manière prémonitoire. On écoute Pierre Mendès France ce 24 octobre 1954.
La dernière semaine encore a été dominée par de rudes et difficiles négociations internationales. C'est pourquoi je suis en retard de 24 heures pour notre rendez-vous habituel du samedi. Dès la rentrée, je rendrai compte à l'Assemblée nationale des compléments qui ont été apportés aux accords de Londres sur les problèmes européens, ainsi que du nouvel accord sur la Sarre. Celui-ci n'a pas été réalisé sans peine. Il donne satisfaction aux droits et aux intérêts de la France dans des conditions que nous revendiquions vainement depuis très longtemps. La conclusion de l'accord est donc un événement d'une grande portée et d'autant plus heureux qu'il met fin à un long et pénible litige. Depuis des années, la question de la Sarre empoisonnait les relations franco-allemandes, la voilà réglée à son tour. Nous allons pouvoir maintenant liquider les vieux dossiers du contentieux franco-allemand et aborder enfin les tâches positives. C'est de ce point de vue que je voudrais vous parler ce soir de mes conversations avec le chancelier Adenauer sur des sujets de caractère économique auxquels j'attache une grande importance. France et Allemagne sont deux pays auxquels leur voisinage et la nature de leurs ressources et de leurs productions commandent d'entretenir des rapports étroits. L'Allemagne de l'Ouest est le premier client de la France et son deuxième fournisseur. C'est un fait qui n'est pas dû à des causes fortuites. Il signifie que France et Allemagne ont besoin l'une de l'autre, que le développement de leurs relations commerciales correspond à une exigence naturelle. Accroître leurs échanges revient à mettre les deux peuples en mesure de travailler plus efficacement, de produire davantage, de vivre mieux. Nous sommes résolus pour cela à conclure des accords de longue durée qui assureront à l'agriculture française des débouchés permanents pour le blé, le sucre, les produits laitiers. Il convient aussi d'encourager les associations d'entreprises et de capitaux allemands et français en vue de la mise en valeur de nos ressources respectives, en vue de l'accroissement de nos productions, ainsi que de la recherche commune de débouchés dans le reste du monde. L'idée d'une association franco-allemande dans ces domaines éveille parfois des sentiments divers. Sans doute, chacun se rend compte que les travailleurs et les techniciens français et allemands peuvent accomplir ensemble de grandes choses, mais on redoute que l'efficacité allemande n'assure à nos voisins d'outre-Rhin une suprématie dont nous ferions les frais. Évidemment, s'il s'agissait de se partager des champs d'activité et des débouchés strictement limités une fois pour toutes, ce pourrait être une mauvaise affaire que de s'associer avec des étrangers actifs et entreprenants. Mais il s'agit de bien autre chose. La coopération, il faut la concevoir et la réaliser en vue de l'élargissement des champs d'activités et des débouchés. Ce n'est pas ici un cas où l'on doit renoncer à ce que l'on a, mais où l'on accroît, par un effort coordonné, la quantité des richesses produites ainsi que leurs débouchés. Autrement dit, dans la perspective de l'expansion économique, une coopération de la France et de l'Allemagne, une coopération ouverte d'ailleurs aux autres pays, loin de porter atteinte aux activités existantes, servira l'intérêt général en contribuant au relèvement du niveau de vie des uns et des autres. Assurément, nous ne devons pas nous lancer à l'aventure dans des entreprises où nous ne pourrions pas tenir le rôle de partenaires égaux. C'est bien pourquoi la réforme de notre économie, la modernisation de notre agriculture et de notre industrie demeurent des objectifs primordiaux. Ces objectifs, nous pouvons les atteindre. Dans plus d'un domaine déjà, nous sommes en mesure d'affronter la concurrence et nous n'avons pas de raison de craindre l'association. Et pour le reste, les atouts ne nous manquent pas. L'espèce de sentiment d'infériorité dont nous souffrons parfois n'est pas justifiée.
Les questions allemandes étant réglées dans des conditions satisfaisantes, Mendès France peut passer à d'autres sujets. Il décide de consacrer sa prochaine causerie radiophonique, selon l'expression de l'époque, à la France d'outre-mer. Aujourd'hui, ce terme désigne les départements ou territoires français des Antilles, de Guyane ou de l'océan Pacifique. Mais à l'époque, la signification est toute différente. La France d'outre-mer, c'est alors essentiellement les terres françaises d'Afrique noire, c'est-à-dire presque le tiers de l'Afrique. Le président du Conseil en parle dans l'esprit qui est celui de la gauche il y a un demi-siècle. C'est dire qu'il n'y est pas question d'indépendance, mais de développement économique et culturel dans le cadre de la République française. Les hasards de l'histoire font que 48 heures exactement après cette intervention, c'est-à-dire le 1er novembre 1954, une vague d'attentats contre la présence française en Algérie va ébranler les fondations mêmes de la France d'outre-mer. On écoute Pierre Mendès France le 30 octobre 1954.
C'est de notre France d'outre-mer que je veux vous parler ce soir. Avec les territoires d'outre-mer, la France est en vérité un très grand État par sa superficie, sa population, l'étendue de ses ressources, la variété de ses climats et de ses terres et ses colossales possibilités de développement. Sans parler en ce moment des États reliés à la France, connaissons donc notre pays comme il est, immense et divers. C'est la République française, telle qu'elle est proclamée dans nos lois. Sur toute son étendue s'appliquent les mêmes principes de progrès et de liberté. Partout, les autochtones ont la jouissance des droits civiques. Au Parlement, les populations d'outre-mer sont représentées par des députés et des sénateurs qui y ont acquis une large influence. Le gouvernement n'est pas le gouvernement de la métropole, exerçant son autorité sur l'outre-mer comme sur une sorte d'annexe. Il est le gouvernement de cette grande France, de cette France à l'échelle du monde. Lorsque j'ai été investi, la voix d'un député de la Guinée comptait tout comme celle d'un député de Paris. Je puis être interpellé demain par l'un comme par l'autre et renversé par l'un comme par l'autre. Aux uns et aux autres, je dois également rendre compte. Il est vrai que jouent contre notre unité des distances considérables et souvent des difficultés de communication et des différences d'origine, de religion, de degré d'évolution, mais ni cette diversité ni la dispersion géographique ne nous ont détournés d'affirmer après la libération l'unité de tant d'hommes et de tant de territoires. Nous sommes ainsi engagés dans une entreprise difficile, hardie et à vrai dire sans précédent. Elle commence seulement, et rien ne serait plus vain que de tirer satisfaction du généreux programme politique et social qui a été tracé pour les territoires d'outre-mer si l'on n'est pas décidé à en poursuivre résolument l'édification, et tout d'abord dans le domaine économique. La métropole a fait, et elle est décidée à développer, un effort financier considérable en vue d'améliorer le niveau de vie dans la France d'outre-mer. En 5 années, le premier plan a déjà sensiblement transformé la physionomie de certains territoires. Des réalisations que les Français de la métropole ne connaissent pas assez ont permis la construction d'un important réseau routier, de ports modernes et d'aérodromes, la mise en place d'institutions sociales et une amorce d'industrialisation en diverses régions. Le second plan aura pour objectif d'améliorer la condition matérielle de la paysannerie d'Afrique, qui représente plus de 90% de la population. Une politique rurale rationnelle, complétée par l'organisation de marchés stables, est le meilleur gage d'un large et rapide épanouissement. Cette politique agricole n'exclut pas les grandes réalisations industrielles. À celle-ci, l'équipement hydroélectrique déjà en cours apportera une contribution décisive. Ainsi, l'on peut prévoir que dans un avenir proche, l'Afrique s'enrichira par la transformation industrielle sur place de certaines de ses ressources minérales. Par là, elle prendra une large part de l'expansion économique et sociale de l'Union française tout entière. Par là, recevra sa vraie récompense l'admirable effort de ces pionniers métropolitains et africains, administrateurs, médecins, instituteurs, missionnaires, ingénieurs, spécialistes agricoles, qui se dépensent sans compter dans les villes ou dans la brousse, qui se sentent parfois isolés et lointains, mais auxquels j'adresse de loin l'affectueuse reconnaissance de toute la nation. Parallèlement, nous ne devons pas concevoir les institutions politiques comme figées. Les assemblées de territoire, en plusieurs années de gestion, ont acquis une maturité et un sens du bien public qui permet d'envisager pour elles des responsabilités plus étendues. Leurs attributions trouveront un prolongement normal dans une participation accrue de leurs représentants à la gestion des affaires publiques. Au-delà des réalités immédiates et des problèmes quotidiens, pensons enfin à la jeunesse africaine et malgache qui se pressent dans des écoles toujours trop peu nombreuses. Pensons à ces étudiants qui viennent dans nos facultés et que nous devons accueillir avec amitié et avec affection. Car l'avenir est dans cette élite qui s'affirme chaque jour. Elle doit trouver sa place, sa large place, dans les cadres de l'économie et de l'administration. Avec la jeunesse métropolitaine, elles doivent la main dans la main, car il y a place pour tous, dans les immenses tâches du progrès, elles doivent forger leur destin commun, car il est le destin de la France et de la liberté.
Le surlendemain de ces propos optimistes sur le développement des terres françaises d'outre-mer éclate donc l'insurrection de la Toussaint en Algérie. Une trentaine d'attentats sont perpétrés le même jour, 1er novembre 1954, aux quatre coins du territoire et plus particulièrement dans les Aurès. La guerre d'indépendance de l'Algérie a commencé, mais presque personne n'en a conscience. Une preuve parmi d'autres en est que le chef du gouvernement décide de consacrer son prochain entretien avec les Français, non pas du tout à ce qui vient de se passer de l'autre côté de la Méditerranée, mais à la question de l'alcoolisme en métropole. Ce sujet lui tenait beaucoup à cœur et sa popularité a connu un bond spectaculaire lorsqu'il a organisé la distribution à tous les écoliers d'un verre de lait afin de leur faire prendre de saines habitudes. Il fallait cependant un certain courage à l'époque pour s'attaquer ainsi aux viticulteurs et au lobby de l'alcool. Nous écoutons Pierre Madès-France.
Le gouvernement s'est encore attaqué au problème, au grave problème de l'alcoolisme. Je n'ignore pas que ces décisions vont se heurter dans certains milieux à un grand scepticisme, car dans ce domaine, on a jusqu'ici beaucoup parlé et peu agi. Chose plus grave, quand des textes ont été votés, ils n'ont pas été appliqués, et la violation de la loi est devenue la règle. Sur ce point, comme sur tant d'autres, il suffit de dire la vérité au pays pour avoir le pays avec soi. Or, quels sont les faits ? Aucune population ne consomme plus d'alcool que la population française. Nos hôpitaux psychiatriques ne peuvent abriter toutes les victimes de l'alcool dont le nombre croît chaque année. La santé de la jeunesse, dans de nombreux départements, est gravement menacée. Il n'est pas question, bien entendu, d'imposer une sorte de prohibition aux Français. Mais il s'agit de rendre des hommes libres conscients des dangers qui les menacent et de les aider à éviter ces dangers. Les textes adoptés par le Conseil des ministres organisent la répression d'abus graves. Il n'est pas admissible que des alcools de fraude, souvent de mauvaise qualité, soient expédiés vers les grands centres et largement consommés dans certaines régions. Il n'est pas tolérable non plus que certaines prescriptions légales soient ouvertement violées ou tournées. Ces mesures ne sont évidemment ni complètes ni suffisantes. Et nous savons bien que la meilleure façon de lutter contre l'alcoolisme consiste à donner aux Français les conditions de vie décentes auxquelles ils ont droit. Moins de taudis, plus de foyers accueillants, plus de stades, et l'alcoolisme tendra de lui-même à disparaître. En attendant, pour lutter contre le fléau vraiment dramatique de l'alcoolisme, nous avons besoin d'être soutenus par l'opinion publique tout entière, et je vous le demande, aux femmes, aux mères de famille, tout d'abord. Mais votre aide à tous, faut-il encore le redire, il nous la faut dans tous les domaines de l'activité gouvernementale. En cet instant même, je ressens, je vous l'assure profondément, le besoin que votre pensée m'accompagne dans les prochains jours. L'avion va m'emporter tout à l'heure au Canada et bientôt aux États-Unis. Eh bien, une fois encore, vous pourrez m'aider, et puissamment, dans ma mission. En me donnant votre appui, votre confiance, peut-être votre affection, vous me permettrez de mieux défendre nos conceptions de la politique de sécurité et de paix. Il faut que nos amis sachent bien que c'est en votre nom à tous que je leur parle. Donc, au revoir et à samedi en 15.
Peu après cette intervention, Pierre Madès-France s'envole pour une dizaine de jours au Canada et aux États-Unis. Il prononce notamment un grand discours à la tribune des Nations Unies. À son retour, et fidèle à son engagement initial de toujours rendre compte de son action aux citoyens, il s'exprime à la radio sur les principaux sujets abordés lors de ce voyage en Amérique. Il évoque notamment les accords de Paris, qui ont permis de régler la question du réarmement de l'Allemagne, ainsi que le problème de l'Autriche. En 1954, l'Autriche subit toujours les conséquences de la Seconde Guerre mondiale et voit son territoire occupé par les quatre grandes puissances victorieuses. Madès-France plaide pour que soit accélérée la conclusion d'un accord entre les Occidentaux et les Soviétiques afin que leurs troupes évacuent le territoire autrichien. Enfin, et pour la première fois, le chef du gouvernement évoque les attentats de la Toussaint en Algérie qui se sont produits il y a presque un mois. Nous sommes le 27 novembre 1954. Écoutons Pierre Madès-France.
Je viens de faire un voyage rapide en Amérique. 3 jours au Canada, 3 jours à Washington, 3 jours à New York. Ce déplacement répondait à deux objets. D'une part, représenter la France, la faire mieux comprendre. Et d'autre part, prendre contact avec les gouvernements d'outre-Atlantique, ajuster nos points de vue et déterminer des décisions communes. Je ne reviendrai pas sur le premier aspect de ma mission. Vous savez à quelle manifestation de sympathie elle a donné lieu pour notre pays et pour son effort de rénovation. C'était un grand réconfort pour moi de voir à tant de signes émouvants que le monde a les yeux sur la France, qu'il compte sur elle, qu'il est heureux de la voir reprendre sa place, son rôle actif et influent dans les affaires internationales. Mais je désire plutôt vous entretenir des résultats de mes conversations. Sur les buts de notre politique, je veux d'abord affirmer que c'est à la détente, à la paix durable que l'on aspire des deux côtés de l'Atlantique. Une égale horreur de la guerre nous inspire et nul ne ferme les yeux sur les effroyables conséquences d'un conflit à l'époque de la bombe atomique et de la bombe à hydrogène. Mais chez les uns comme chez les autres, une préoccupation. Que faire ? Comment faire pour améliorer les relations entre l'Est et l'Ouest, pour sortir de cet état d'hostilité latente si lourd de péril qu'on a dénommé la guerre froide? Les accords de Paris ne constituent que le premier élément d'une politique de sécurité. Ils doivent être accompagnés et complétés par d'autres éléments en vue de substituer au régime de la guerre froide un état de choses où tous les peuples se sentirait enfin assuré d'un avenir de paix. Mes interlocuteurs et moi-même nous sommes trouvés d'accord sur les grandes lignes de l'action possible et nous en avons tracé le cadre au sein duquel chacun de nous conserve naturellement sa liberté pour agir au mieux de l'intérêt commun, c'est-à-dire de l'intérêt de la paix. C'est dans ces conditions que lundi, de la plus haute tribune, celle de l'Assemblée des Nations Unies, j'ai fait au nom de la France des suggestions importantes et qui seront, je l'espère, retenues. La première tente à fixer dès maintenant la date d'une conférence à quatre. J'ai indiqué le mois de mai prochain et j'ai proposé que la réunion ait lieu à Paris. C'est la date la plus proche qui puisse être envisagée si l'on veut faire du travail sérieux, si l'on veut aller à la conférence avec de vraies chances de succès, sans risquer un échec qui, en pareil domaine, ne pourrait qu'aggraver les tensions, semer le découragement, l'angoisse et peut-être la panique dans l'opinion publique. Il faut une préparation sérieuse à la conférence. Il faut déblayer le terrain et reconnaître honnêtement les possibilités d'entente. Entre-temps, le Parlement discutera les accords de Paris. C'est parallèlement, comme je l'ai dit depuis des mois, que doivent se poursuivre d'une part la ratification des accords de Paris et d'autre part la préparation diplomatique de la conférence à quatre. Entre-temps, il est une question irritante et dangereuse pour la paix sur laquelle on devrait se mettre d'accord, c'est celle de l'Autriche. D'ores et déjà, une solution acceptée par tous a été définie. Pourquoi ne pas conclure ? Pourquoi ne pas signer dès maintenant ? Un règlement de ce problème intervenant avant même la réunion de la conférence à quatre serait le meilleur gage, le meilleur présage du succès final. D'autres questions exigent, reconnaissons-le, qu'on les étudie minutieusement avant de s'aventurer dans un débat public. J'ai suggéré à l'Union soviétique de considérer avec soin le système de limitation, de contrôle et de publicité réciproque des armements que nous avons institué pour l'Europe occidentale par les accords de Paris. Ce peut être un modèle, ce peut être un point de départ pour l'édification d'un système plus général de sécurité européenne. Les pays de l'Europe occidentale se sont fixés à eux-mêmes des maxima, des plafonds pour leurs armements. Pourquoi, à l'Est, ne fixerait-on pas également et publiquement des maxima et des plafonds pour les armements? Alors, l'Est, tout comme l'Ouest, connaîtrait l'importance des forces qu'il a en face de lui. Chacun aurait une garantie que de l'autre côté, un certain niveau d'effectifs et de matériel ne serait pas dépassé. Et à mesure que s'instaurerait un climat de plus grande confiance, on pourrait faire de nouveaux progrès, s'entendre sur des réductions d'effectifs et d'armements comme sur la limitation des troupes stationnées dans des zones déterminées. Bref, on en viendrait à un accord instituant un véritable système de sécurité pour toute l'Europe. Ainsi donc, durant ce bref voyage d'Amérique, un effort fructueux, je l'espère, a été entrepris à notre initiative pour faire avancer la cause de la détente et de la paix. Souhaitons que cet effort français, pour le bien de tous les peuples, soit couronné de succès. De retour en France, j'ai trouvé plus d'une affaire à traiter, plus d'une difficulté à résoudre. Les questions d'Afrique du Nord, par exemple, sont au premier plan de nos préoccupations. Et je voudrais vous en dire un mot avant de terminer. Il ne faut certes pas minimiser l'importance des événements qui se sont produits de l'autre côté de la Méditerranée, mais il serait tout aussi injustifié de l'exagérer comme on le fait trop souvent. N'oublions pas qu'en Tunisie, l'insécurité était générale au début de l'été et qu'elle a depuis pris fin dans les villes. Dans les campagnes persiste une certaine activité séditieuse, activité qui s'est étendue par-delà la frontière de la Tunisie, au sud du département de Constantine, dans le massif de l'Aurès. Mais contrairement à ce qui a été dit, le calme règne en Algérie, un calme qui n'a en fait jamais été troublé depuis les attentats, d'ailleurs presque tous manqués, de la nuit de la Toussaint. Au moment où je vous parle, les négociations se poursuivent avec le gouvernement de Son Altesse le Bey pour la conclusion des conventions franco-tunisiennes créant un nouveau régime d'entente et d'association entre nos deux pays. De plus, Français et Tunisiens se sont mis d'accord sur les moyens de mettre fin à la sédition des Felaga. Sur tous les plans, vous le voyez, le gouvernement travaille à la paix. Il progresse dans la voie des rapprochements et de la détente. Mais pour poursuivre cette œuvre, il lui faut, ne l'oubliez jamais, votre confiance et votre appui de tous les jours.
On vient de l'entendre, Pierre Mendès-France se veut pleinement rassurant sur la situation en Algérie. Il minimise publiquement l'importance des attentats de la Toussaint. En son fort intérieur, il est probable qu'il s'inquiète davantage. En particulier, il ne fait guère confiance aux notables Français d'Algérie, dont il côtoie quelques-uns des plus influents au sein de son propre parti, le Parti radical, pour engager une politique plus ouverte à l'association des élites musulmanes à la conduite des affaires algériennes. Toujours est-il qu'en ce début du mois de décembre 1954, Mendès-France ne laisse officiellement rien transparaître d'une telle inquiétude. Au contraire, dans la dernière intervention que nous allons entendre aujourd'hui, il passe ostensiblement à d'autres sujets. Après avoir évoqué encore une fois des questions internationales qu'il ne nous a pas paru utile de rediffuser ce matin, Pierre Mendès-France décrit le nouveau chapitre de l'action gouvernementale qui va s'ouvrir. De quoi s'agit-il ? De l'Algérie ? Pas du tout. Il s'agit du développement économique et social de la France, sujet pour lequel il s'est toujours passionné, sur lequel ses compétences sont reconnues et dont il a déjà fait preuve en qualité de ministre des Finances de Léon Blum à la fin du Front populaire et avec le général de Gaulle à la Libération. On écoute Pierre Mendès-France, le 4 décembre 1954.
Au début de l'année prochaine, je me rendrai en Italie pour régler avec nos voisins d'importantes questions d'intérêt commun et pour fixer ensemble les positions de nos deux gouvernements sur les grands problèmes internationaux. À ce moment, j'aurai achevé enfin de mettre en place les éléments essentiels de notre politique étrangère, de consolider notre position, de redresser notre indépendance, de préparer les conditions fondamentales de la détente générale dont la France doit être le premier artisan et le plus actif. Un nouveau chapitre de l'action gouvernementale pourra alors s'ouvrir. Absorbé jusque-là par un calendrier écrasant, j'ai été empêché de m'occuper autant que je l'aurais voulu de questions essentielles sur le plan intérieur et notamment de l'expansion économique, de la situation sociale, de la politique agricole et des réformes nécessaires dans l'enseignement et dans l'administration dont je connais cependant, comme vous, l'importance et l'urgence. Je n'oublie pas le mandat qui m'a été donné par l'Assemblée nationale de mettre en œuvre le programme d'une renaissance économique qui refera la grandeur de notre pays, d'une renaissance qui sera notre espoir et bientôt notre fierté. Vous qui m'avez suivi de semaine en semaine, Vous savez pourquoi je ne pouvais pas jusqu'ici remplir pleinement ce mandat. Vous savez que les forces humaines ont des limites. Mais à la mi-janvier, le travail préalable sera accompli. Je pourrai me consacrer entièrement à la direction du gouvernement et de ses tâches économiques et sociales. Mon ambition la plus chère, c'est que les forces dont je dispose, c'est que l'expérience que j'ai acquise serve à la réalisation de cette grande œuvre de redressement intérieur qui doit être entreprise pour le bien de tous et qui réussira si elle est assurée du concours de tous.
Nous quittons Pierre Mendès-France aujourd'hui sur cet espoir que le prestige qu'il a acquis dans le traitement des très difficiles dossiers internationaux lui permette de poursuivre sa tâche sur le terrain économique et social. Mais nous verrons demain matin sur cette antenne que les événements en Algérie et surtout l'hostilité croissante de diverses forces politiques ne lui en laisseront pas le temps.
C'était le quatrième temps de la série de 5 mémorables consacrée à Pierre Mendès-France, diffusée la première fois le 17 octobre 2002 sur France Culture. À suivre.